Devine qui vient dîner. Lydia Gabor.
Bonsoir et bienvenue à tous. Notre invité de ce soir nous ferait bien un dîner aux plantes sauvages. Et oui, oui, il est ethnobotaniste, scientifique, passionné de la cueillette, cuisinier à ses heures. Il signe plus d'une cinquantaine d'ouvrages sur le sujet et nous propose ce soir « La santé par les plantes » en Suisse romande, aux éditions du Belvédère. Bonsoir François Couplan.
Bonsoir Lydia.
À travers tous ces ouvrages qu'on découvre peu à peu, il y en a quand même pas mal. Bien sûr, vous nous enseignez beaucoup de choses sur les plantes qu'on découvre dans tous leurs états. Mais c'est surtout une certaine relation à la nature que vous avez envie de transmettre. Quelle est cette relation que vous aimeriez nous voir pratiquer?
Je parle simplement de ce que j'aime et de ce que je connais en fait. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. C'était tellement normal pour moi de ramasser des fraises, des bois, des myrtilles, des choses comme ça qui me parlaient vraiment. Et puis de me sentir dans un milieu où il y avait d'autres êtres humains que simplement où il y avait d'autres êtres que simplement des êtres humains.
Voilà. qui ont pris toute la place.
Qui pour moi n'ont pas toujours pris toute la place puisque ça a été une longue histoire avec un certain nombre de coupures même un petit peu violentes et très urbaines. J'ai quand même toujours gardé cette relation avec ces autres êtres non humains. Et ça me remplit tellement de joie, c'est tellement fabuleux, c'est tellement un émerveillement de tous les instants quand je suis dans la nature, surtout quand je suis dans une nature forte et puissante, puisque quand j'étais un enfant, pour les enfants, tout.
Mais
le
vous viviez dans la nature, vous aviez cette chance,
non? Non, j'y vivais à Paris.
Avant.
J'y vais à Paris, mais ma mère était alpiniste et donc comme j'étais petit, elle pouvait pas m'emmener gravir les sommets, donc elle m'amenait justement cueillir les myrtilles, faire des barrages dans les petits ruisseaux. Enfin, je veux dire, c'est merveilleux, c'est le monde, c'est ce paradis perdu après lequel chacun court sans savoir exactement ce qu'il peut représenter, comment il peut être. Et moi, j'en ai non seulement la vision, mais c'est plus qu'une vision, la perception jusqu'à ce jour, maintenant, en ce moment où je vous parle, quoi. Donc j'ai envie de partager ça. Je veux pas que les gens le fassent. Si les gens veulent le faire, c'est très bien, ça me ferait plaisir. J'ai surtout envie que les gens soient heureux, quoi.
Pourtant, vous êtes un homme de ce siècle. Vous êtes aussi un homme moderne, aussi un homme au mental de notre siècle.
Je me suis jamais posé la question.
Téléphone, ordinateur.
Ah, pour ça, technologique, vous voulez dire. La technologie, c'est bien, c'est rigolo, c'est utile. Évidemment, maintenant, pour écrire mes livres, je me demande franchement comment je ferais. Enfin, comment je faisais, puisque tous mes premiers livres... J'écrivais feuillet après feuillet. Alors, je me relisais. Quand je me relisais, il y a des fautes, donc il fallait que je recopie. Je faisais ça plusieurs fois.
Il y avait le typex, quand même. On pouvait corriger, réécrire.
C'était après, au niveau machine à écrire. Après ça, en fait, je le donnais à faire, parce que la machine à écrire, c'était un peu... Voilà. Et donc, c'était compliqué, ça prenait du temps. Ça avait une autre valeur, sans doute. Mais bon, toujours est-il, c'était quand même vachement moins pratique, surtout moins rapide. Je veux dire, là maintenant, je peux écrire des livres plus rapidement. Je suis plus en adéquation avec la vitesse de ma pensée. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Ça, j'en sais rien.
Donc, le mythe du bon sauvage, vous l'idéalisez pas trop. Je veux dire, il y a des choses bien aujourd'hui. Et puis, il y a le rapport à la nature avec lequel c'est agréable de vivre.
Attendez, la nostalgie, je connais pas.
D'accord.
La nostalgie, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être là où je suis maintenant. Et moi, je suis composé de toutes sortes d'éléments qui s'ancrent dans le passé, qui vont quelque part, parce que je suis toujours en mouvement, et je pense que la vie est mouvement, mais je suis bien là où je suis maintenant.
Et ce studio, comme vous disiez, il n'y a aucune nature, il n'y a que de la moquette.
Je disais ça, mais franchement, on a une vue sur les Préalpes, on a une vue là tout près, il y a un rideau d'arbres. Je sais qu'au pied de cet arbre, là, quand je sortirai tout à l'heure, je vais aller ramasser quelques petites pousses d'égopotes pour mon repas du soir, parce que j'ai rien mangé ce soir, je vous l'avoue. Donc, il n'y a pas de problème, quoi. Franchement, honnêtement, à la radio Suisse romande, vous êtes bien quand même.
Merci. Donc, votre invité ce soir, c'est Kim Pasch. Mm-hmm. Qui est Kim Pasch? Bonsoir, Kim Pasch.
Bonsoir.
Comment vous l'avez rencontré?
Kim, j'ai rencontré un jour où on faisait une fête, une brisolée, chez moi à Massonance, donc dans le canton de Fribourg. C'est un ami qui s'appelle Roland et qui, avec qui je donnais des stages de techniques de vie primitive, c'est-à-dire comment faire du feu sans allumettes, comment tailler des silex et tout ça. Et c'est là que Roland m'a présenté Kim, qui avait été invité par je ne sais qui à cette Brisolée où il y avait plein de monde qui venait, quoi. Et ben, j'ai discuté un petit peu avec Kim, voilà, comme ça. Et puis, sans plus, parce que je travaillais avec Roland, et puis finalement, Kim est venu, on s'est revus, et puis on a décidé
Kim,
de travailler
il
ensemble.
Kim, il vous a fait quelle impression, François Coupland, en premier contact?
Ça devient intéressant, ça devient intéressant.
Ouais, c'est une bonne question.
Un peu d'un allumé, il avait toujours son petit chapeau avec des plumes.
J'ai un badge.
Il est toujours là, mais là, il a le badge du visiteur toujours sur son chapeau.
Bah, il faut dire que je connaissais on va dire l'écrivain avant le personnage, hein, puisque ses livres étaient une référence. Je me baladais, moi, à l'époque, à la recherche de plantes sauvages et la façon de les apprêter. Et donc, je le connaissais au travers de ses livres.
Donc, vous étiez un peu dans ce même sentiment de la nature, découverte.
On peut le dire, quoi. Ma démarche, je pense, s'inscrit et s'inscrivait déjà dans les mêmes recherches, les mêmes aspirations. Et donc, pour moi, forcément, c'était très intéressant de le rencontrer. Et de le rencontrer chez lui m'a donné envie d'aller plus loin de ce côté-là. Je me suis aussi rendu compte que pour moi et mes propres démarches, c'était important de mieux connaître ce monde des plantes sauvages et l'aspect comestible de ces plantes. Et voilà. Donc
Mais ça vous est venu comment, cet amour de la nature, ce désir de vous immerger dans la nature? Tout petit déjà, avec votre maman qui était alpiniste.
Non, juste pas. Non, moi je pense que c'est mon grand-père en fait qui m'a donné ça. Ouais, le fait qu'il ait une maison qui est en forêt ou en lisière de forêt, relativement en autonomie quand même, panneaux solaires pour l'époque, donc il y a 30 ans, c'était pas mal. Une source qui est, on a une source directe, un jardin. Et moi, je passais en fait tous mes congés dans la nature,
Chez lui?
À l'échelle du canton de Vaud, du Gros de Vaud.
Ouais, mais quand on est petit, la nature, elle est partout. Elle commence et dans la réalité, d'ailleurs, elle commence sur le pas de sa porte. C'est beaucoup une question de la façon de voir. Puis c'est vrai que quand on a plus d'habitude, d'expérience, effectivement, on trouve qu'en Suisse romande, il n'y a pas beaucoup de nature.
On a envie d'aller chercher plus loin.
On va au Canada,
plus sauvage. Donc vous êtes, c'est ça. Vous êtes parti au Canada pour pousser plus loin cette expérience.
Oui. Voilà, mais c'est une démarche qui est, finalement, elle s'inscrit c'est au plus loin que je puisse me souvenir. Moi, je rêvais des Indiens, étant enfant, à me faire
qui
des arcs.
Qui n'a pas joué aux Indiens.
Exactement, qui n'a pas fait ça. Sauf que moi, j'ai voulu continuer à y jouer, quelque part.
Oui, c'est ça, moi, c'est pareil. Ouais, c'est vrai qu'on joue aux Indiens.
Vous jouez aux Indiens, notamment dans des stages que vous partagez, que vous animez ensemble.
Certains ensemble, certains séparément.
Donc, vous êtes vraiment engagé un peu dans la démarche avec François Coupland par rapport à ces stages pendant la période estivale. Et donc, ce sont des stages, vous me disiez, de survie douce. Alors, Kim, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on apprend dans ces stages de survie douce,
j'ai bien insisté.
Tout à fait, vous avez bien insisté parce que moi je prévoyais déjà le pire. Survie douce. Alors, oui, Kim.
Déjà, on n'a pas de programme, premièrement. Alors c'est peut-être déconcertant pour certains.
Ouais. Bon, on arrive quand même à une certaine heure sur les
lieux. Voilà, on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous pour que tout le monde y soit et on espère que tout le monde y soit.
Et des fois, ça arrive.
Ouais, voilà.
Mais une fois qu'on est parti, qu'on est vraiment dedans, qu'on part randonner. Je pense que l'idée avant tout, c'est déjà justement d'essayer peut-être casser, c'est un mot un peu fort, mais du moins d'oublier en fait le rythme qu'on a dans nos sociétés. C'est vrai qu'on a des rythmes qui sont d'autant plus effrénés aujourd'hui, qu'on a des technologies qui nous permettent de communiquer de façon rapide avec tout le monde. Et finalement, ce qui est censé nous libérer du temps nous en rajoute. Donc déjà, on essaye de souffler, quoi.
Donc, je m'imagine. Donc, j'arrive avec quoi? Mon sac de couchage, un sac à dos, mes boules qui est, si je dois. Avec quoi je dois arriver?
La chouette hulotte la nuit, ça fait du bruit.
Voilà. Parce qu'on va dormir dans la nature. Donc
on dort à la belle étoile.
Dans ces stages de survie douce.
Surtout pas dans une tente.
Surtout pas dans une tente.
Ça coupe vraiment.
D'accord. Donc, il faut arriver juste avec son sac de couchage.
Voilà. Ça c'est bien.
Ça, c'est bien.
L'idée, c'est ne pas avoir froid. Ne pas être mouillé et puis pouvoir marcher convenablement sans store.
Donc des souliers de marche.
Voilà, voilà. Mmh. À part ça, le reste, ma foi, on va surtout chercher ce dont on va pouvoir se nourrir. C'est quelque chose d'important. Ça.
Donc c'est en marchant, si j'essaie de visualiser un tout petit peu, c'est en marchant avec les participants qu'on observe des choses dans la nature, sur le chemin, qui pourraient, qui pourraient nous permettre de nous nourrir le soir.
C'est ça. Alors, si on rencontre quelque chose d'intéressant, où il y a beaucoup à récolter, on s'arrête, on fait halte, et puis tout le monde pose
le sac à dos. C'est quoi, une petite racine qu'on va couper
finement ? Racine, pas tellement de racines. Non, je veux dire, les racines, c'est pas forcément toujours très réaliste.
Oui.
Mais ça va être toutes sortes de plantes. Ouais, d'herbes, de légumes sauvages, de tiges, les tiges de berce. C'est pas bon, les tiges de berce ? Non, vous voyez pas.
Mais je vous crois pas sur parole.
Oh là là là, la tige de berce.
Ça se grignote sur le chemin.
Les cuches, les cuques, comme on dit. Oui. Hein
oui.
Vous connaissez ça quand même.
Très bien, parfaitement. Hein, j'en prends tous les jours au petit déjeuner, oui.
Ouais, non, mais arrêtez, tous nos auditeurs, ils connaissent ça.
Oui, bien sûr.
Les cuques, c'est ces grandes ombellifères qui poussent dans les champs et qu'on sait pas trop si c'est pas de la ciguë, un truc de on sait pas quoi. Et en fait, dans la plupart des cas, c'est de la berce. Et la berce, c'est trop génial. Quand la tige est tendre, tac, on coupe, on pèle. Délicatement comme ça, on sent, ça sent la mandarine et la noix de coco, alors on croque. Et alors là, c'est l'extase. Surtout, je veux dire, quand vous n'avez pas forcément grand-chose dans le ventre, je peux dire que vous êtes vraiment content. Et vous pouvez en manger beaucoup, et ça nourrit, c'est nutritif, quoi. En automne, il y a les glands, si. Ça, c'est autre chose. Alors, les glands, c'est un petit peu plus long, faut les écorcer. Mais faire de la bouillie de glands en pleine nature, attendez, excusez-moi, c'est quand même des expériences dont on se souvient toute sa vie, ça.
Kim, vous avez fait plusieurs fois ce genre de stage, vous avez animé. Mmh. Est-ce que parfois il y a des gens qui vivent difficilement, en tout cas les premières heures de cette expérience?
Oui, premières heures, premiers jours. Des personnes le vivent difficilement peut-être jusqu'au bout. Hein, ça, c'est,
comment ça se manifeste? Ils sont mécontents?
Il y a de tout. Je pense que ça dépend beaucoup des caractères aussi. Hein. On peut voir des gens qui vont peut-être être plus nerveux, plus agressifs. On a aussi des gens qui l'encaissent. On voit que c'est difficile, mais finalement l'acceptent. Honnêtement, j'ai vu au travers des années à peu près de tout. Hein. Mais la majorité des gens, quand même, je crois, doucement... Alors, il y a des stades qui se répètent suffisamment pour qu'on puisse les déceler. On a le doute qui s'en vient, puisque c'est vrai qu'on est habitué à s'alimenter d'une certaine façon régulière, déjà. On définit des repas. Alors, nous, on va peut-être pas forcément mettre des repas très précis à des heures précises. Donc, parce que c'est un terrain nouveau, beaucoup de personnes... ont peut-être un peu peur ou émettent des doutes. Et puis bon, après, c'est notre rôle aussi d'essayer de peut-être les rassurer parfois, puis de dire, mais attendez un peu, attendez un peu de voir ce qui se passe. Parce que finalement, il faut laisser le temps aussi à l'organisme de se réorganiser, aux gens de percevoir dans quel milieu ils sont. Donc effectivement, on est surpris après quelques jours, des fois... On a des gens qui nous commentent « Ah ouais, j'y croyais pas en fait, mais je comprends pas comment c'est possible. Le deuxième jour, je me sentais mal, presque, j'avais faim, et aujourd'hui ça va mieux, et je me sens la pêche. »
L'expérience dure une semaine à peu près ?
Oui, c'est ça. Ouais,
tout à fait.
Ouais, oui. Mais
vous disiez, vous opiniez du chef rassurer. Vous les rassurez pas.
C'est exactement ça. Alors, justement, parce que qui m'a dit tout à l'heure, oui, il n'y a pas de structure, on parle, bon, d'accord, c'est vrai. Mais en même temps, le rôle de l'animateur, mais il est... terriblement exigeant, quoi.
Le rôle de l'animateur.
On est avec un groupe de personnes qui, justement, ne sont pas rassurées, absolument, même parfois ont franchement peur. Ouais. Et notre rôle à nous, c'est, oui, les rassurer, mais sans les rassurer. C'est ça le truc.
Comment vous arrivez à faire ça?
Ah, c'est ça.
Vous êtes là, vous connaissez le milieu.
On est là, il faut être en retrait, toujours prêt à intervenir. Et d'ailleurs, en fait, je me rends compte, c'est marrant, j'en discutais avec ma belle-sœur tout à l'heure par rapport à mes enfants. Et élever les enfants, pour moi, c'est la même chose. C'est, il faut être là, il faut que les enfants sachent qu'on est là. Mais surtout qu'on les laisse faire leur expérience, vivre leur aventure, leur propre aventure. Et dans un stage de survie, c'est la même chose. Il faut, bien sûr, on leur montre des choses, mais pas trop. Il faut surtout pas les prendre par la main et puis leur aplanir tous les obstacles. Mais si on se rend compte que c'est trop, parce que des fois, il y a des personnes, il faut carrément leur porter le sac, je veux dire, ils arrivent même pas. Donc,
c'est de la suggestion, moi, je dirais, c'est un bon mot, ça. Je trouve que finalement, on suggère des choses plus qu'on impose ou, voilà, encore une fois, on n'a pas un programme, on va pas dire, voilà, aujourd'hui, on fait ça. C'est finalement, on va voir ce que le groupe veut faire. Parce qu'une chose dont on n'a pas parlé, c'est la notion de groupe aussi. Qui est très importante, en fait.
Absolument.
Donc chaque groupe est différent, comme un individu collectif.
Exactement, c'est ça. Ouais. Et en fait, l'identité de groupe, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on a à travailler, nous, dans nos immenses cités où on croise des centaines de personnes.
Ça, c'est une chose qui est très intéressante et très importante. On vit toujours dans des endroits, enfin pratiquement, sauf dans des petits villages, dans des petites communautés d'une cinquantaine d'habitants, dans des groupes qui sont trop grands pour nous. Au-dessus de 50 personnes, on ne peut plus avoir de relations. C'est pas vrai, c'est pas possible. On le sait, ça. Et donc, il faut absolument arriver à retrouver un équilibre où on se sent bien, quoi. Et ça, avec des groupes de cette taille, d'une vingtaine de personnes.
C'est déjà vraiment pas mal, une vingtaine de personnes en situation de survie.
Mais c'est bien, il faut avoir la bonne taille du groupe, quoi. Pas trop, pas trop peu.
Mais ça vient naturellement, c'est aussi ça qui est génial finalement, c'est de voir qu'on a des choses en nous. Hein. Alors est-ce qu'on pourrait parler d'instinct, de je sais pas, hein, peu importe le nom qu'on colle à ce phénomène, mais je crois que naturellement on a des prédispositions, évidemment. En tant qu'espèce, quoi, en tant qu'humain. Et c'est étonnant de voir comme finalement ça revient. Justement, ces notions de groupe, l'archéologie ou l'ethnologie pourrait nous le prouver, hein, finalement. Bon, on voit très bien des groupes fonctionnels.
On vient au clan, quoi.
Voilà.
On vient à la taille du clan.
Très spontanément.
C'est même pas jouer aux Indiens, là, c'est carrément revenir dans le paléolithique, quoi.
Exact.
Ils sont les deux très, très souriants. Donc, des stages de survie douce tout au long du mois de juillet, du mois d'août, où vous pouvez encore vous inscrire sur le site de François Couplan.
www.couplan.com.
Voilà.
www.couplan.com. Voilà, je l'ai bien dit.
On est dans votre compagnie jusqu'à 21h dans Devine qui vient dîner, avec principalement ce livre La santé par les plantes en Suisse romande, le temps d'une chanson, et on abordera plus au vif du sujet de ce nouvel ouvrage. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur la première.
Les pommiers fleurissant 3 ans dans les histoires naturelles. Moi j'ai chopé le goût du vent. L'amour a trop chanté les roses, les petits cœurs bien ligotés. Forget me not, je te propose d'entrer dans mon jardin secret. Fais-moi une fleur, essuie tes larmes et viens te coller contre moi. Des pleurs à son charme, mais je préfère le grain de ta voix. Fais-moi une fleur, range tes larmes. Dehors le soleil se débine, viens vite avant qu'il ne désarme. Écoutez le chant des glycines. Les cactus n'ont pas peur du noir, mais c'est peut-être la rosée qui les fait se gonfler d'espoir et perdre leur timidité. Le muguet sort des griffes en mai et fait le travail dans les rues. On révolutionne aux œillets, on s'empoisonne à la ciguë. Fais-moi une fleur, essuie tes larmes et viens te coller contre moi. Le langage des pleurs a son charme, je préfère le grain de ta voix. Fais-moi une fleur, range tes larmes. Dehors le soleil se débine, viens vite avant qu'il ne désarme. Écoutez le chant des glycines. Tes chagrins plein la vue, tu fais déborder la piscine. Viens dans mon jardin sur la rue, de ce lundi qui se termine. Forget me not, il attend plus que les tulipes sous Marilyn. Viens dans mon jardin sur la rue, écoutez le chant des glycines. Fais-moi une fleur, essuie tes larmes et viens te coller contre moi. Le langage des pleurs a son charme, mais je préfère le grain de ta voix. Fais-moi une fleur, range tes larmes. Dehors le soleil se débine, viens vite avant qu'il ne désire. le chant de l'épicier.
Fais-moi une fleur morane sur la dessus ce moment de la première.
C'est les glycines dont on fait les beignets là qui parlaient là.
Probablement.
Ah, c'est sympa.
Nous sommes en compagnie de François Couplan et de Kim Pache. Un nouvel ouvrage, La santé par les plantes, donc de Suisse romande. Ce qui est intéressant au début de ce bouquin, enfin tout le bouquin est comme une encyclopédie. On trouve différentes plantes avec toute leur utilisation. On va aller plus en détail, mais vous faites un petit renvoi historique en disant que finalement cette relation que nous avons à la nature, ou que plutôt que nous n'avons plus à la nature. C'est quelque chose de très récent. Ça fait
500 générations.
Ah, quand même.
500 générations.
Ah, donc vous remontez très loin, vous. Non. Moi,
Disons, il y a eu un certain nombre d'étapes, on peut dire.
D'accord.
Hein. Mais il y a un point crucial, c'est le néolithique, il y a 10 000 ans, quoi.
Ah, donc quand même.
Je veux dire. Ouais, c'est 10 000 ans sur notre histoire à nous, Homo sapiens, on va dire 500 000, et sur le genre Homo de 3 millions, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que 10 000 ans? C'est rien du tout.
Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, de si dramatique?
Ah bah, tout simplement, l'homme a décidé, si on peut dire ça, de devenir producteur et de ne plus, si je vais dire ça, on va faire ça très, très résumé avec plein de guillemets, pour aller vite, quoi. Mais de ne plus accepter les cadeaux de la nature qui lui étaient offerts librement et de se mettre à cultiver, pas du tout pour une raison, contrairement à ce qu'on croit souvent, pas parce qu'il crevait de faim, pas du tout parce qu'il était en mauvaise santé, au contraire, bien au contraire. Mais surtout, à mon avis, c'est parce que l'être humain, il a besoin d'expérimenter. Il a vraiment besoin d'expérimenter. Il a vu qu'en mettant des graines dans le sol, ça lui permettait de pas aller chercher les plantes plus loin et donc d'en produire davantage sur une petite surface de terrain. Donc d'augmenter sa population, et là où il a ouvert la boîte de Pandore, quoi. Ça a entraîné les guerres, les épidémies, l'esclavage, enfin plein de trucs vraiment pas très rigolos, quoi.
Mais là on parle d'une agriculture, parce que finalement ça peut être
bien aussi la céréaliculture,
il y a tout un tas d'autres formes finalement qui n'ont pas été aussi violentes peut-être, enfin sans cette allée, nous on parle de la nôtre finalement, dont on découle directement.
Oui, mais attends, parce que c'est ça. C'est dans ce type d'agriculture et dans ce type de mentalité céréalicole, on va dire, dans laquelle on vit actuellement et qui a
encore
développé
aujourd'hui dans la même mentalité
et qui a développé la culture occidentale qui est en train de se répandre absolument partout sur la planète et qui a plein d'aspects intéressants, ne serait-ce que l'art ou la technologie et des choses comme ça, mais qui, c'était pour répondre à votre première question, a induit cette coupure d'avec la nature, tout simplement parce que quand on cultive en défrichant systématiquement de partout, on est obligé de se battre contre la nature, parce que la nature, laissez-la tranquille, laissez votre jardin pendant 15 jours, vous voyez déjà ce qui se passe, laissez-le pendant un an, laissez-le pendant 10 ans, laissez-le...
On voit plus la maison là, c'est fini.
Bah oui. C'est exactement ça, la nature, c'est pour ça que moi je me fais pas de soucis pour la nature. La nature, elle bouge, elle vit, elle grouille.
Alors revenons aux plantes médicinales, si on veut. En fait, assez longtemps, et ça nous fait voyager aussi dans le temps, assez longtemps, ces plantes médicinales étaient dans la nature, et vous dites que c'était un savoir des femmes de les utiliser pour la santé domestique, on va dire. Donc tout ça était assez bon enfant, assez...
Mais voilà. Elles y sont toujours dans la nature.
Elles y sont toujours, bien sûr.
Il suffit d'aller les chercher.
Les femmes moins. Et au fond, vous faites la différence entre une médecine que vous dites des simples, une médecine domestique, des paysans, des femmes, etc. Et peu à peu, une médecine scientifique qui vient s'affirmer.
Oui, alors c'est un processus qui date de ces 30 et quelques dernières années, effectivement. C'est vrai, jusque dans les années 70, on considérait les plantes comme des tisanes qu'on utilisait pour ceci, pour cela. Il y avait des gens qui détenaient un petit peu de savoir, et puis on allait cueillir ces plantes, on faisait des vision pour l'hiver, puis c'était très, très bien comme ça.
Vous voulez dire la camomille, le tilleul, la menthe.
Voilà, et puis en fait, il y avait tout un savoir qui allait bien au-delà de ça, et que certaines personnes utilisaient à des fins très précises. Mais
de soigner.
Pour soigner, bien sûr, absolument, pour soigner. Il y avait de partout, il y avait des guérisseurs qui connaissaient, comme il existe toujours à travers le monde. Ce qu'il y a, c'est que il y a 30 ans, on s'est mis à faire des analyses et puis on a trouvé qu'il y avait des principes actifs, que telle plante servait à soigner tel problème parce qu'elle contenait telle chose.
Telle molécule.
telle molécule, mm-hmm. voilà, exactement.
Et qu'on a pu reproduire synthétiquement aussi.
Certaines, bah, le plus connu c'est l'aspirine. Hein. Oui. L'aspirine est tirée de la... du fait que la reine des prés, qui s'appelle Spirée Ulmer, qui s'appelait Spirée Ulmer, contient du salicylate de méthyle. On a tripoté la molécule pour obtenir de l'acide acétyl salicylique qu'on a baptisé du nom de l'aspirée en disant aspirine. Voilà, bon, donc ça prend naissance dans une plante, quoi.
Ce que vous dites et qui est très intéressant, c'est que dans la plante médicinale, il n'y a pas seulement le principe actif, comme on l'appelle, mmh. donc, mais qu'il y a toute la plante. Et qu'au fond, la médecine chimique ne prend que le principe actif et il le sépare de cet ensemble.
Oui, alors, bon, disons que c'est le principe de la science que d'analyser et le principe de la chimie que d'aller voir ce qu'il y a et le principe de la médecine que de prendre une substance, de se rendre compte que ça marche contre telle chose et de dire, voilà, c'est comme ça. C'est très bien. Moi, je trouve ça, c'est très bien. Dans plein de cas, ça marche. Mais il ne faut pas oublier que, d'une façon générale, enfin, quand on va utiliser une plante, plutôt qu'un principe actif extrait de la plante ou synthétisé, on va utiliser la plante dans son ensemble. Et dans certains cas, il y a certaines plantes, comme la valériane par exemple, dont on n'a pas pu synthétiser le principe actif. Dans d'autres cas, on s'est rendu compte qu'il y avait un principe qui allait dans une certaine direction, mais qu'il y avait d'autres substances autour qui temporisaient l'effet, qui faisaient qu'on n'avait pas d'effet secondaire comme avec les principes directement extraits. Mais voilà, tout ça, ça a sa place. Je veux dire, on ne va pas aller soigner une personne avec de la digitale. Une personne qui a le cœur malade, on ne va pas aller la soigner avec la digitale. On va la soigner avec la digitaline qu'on a extrait. C'est très bien, on peut le mesurer. Bon, par contre, il y a certains cas, comme une dépression légère, par exemple, ça répond très bien au millepertuis. En Allemagne, ça marche super bien. En France, l'AFSAPS, l'Agence de sécurité des produits sanitaires, a envoyé une circulaire à tous les médecins en disant « Faites attention, parce qu'il y a un risque d'avoir des effets secondaires, d'avoir des effets, plus exactement, d'interaction avec d'autres médicaments, comme les trithérapies. » Bon, mais ça veut dire quoi? Chaque fois qu'il y a une molécule chimique qui est mise sur le marché, l'AFSAPS ne va pas aller envoyer une circulaire à tous les médecins en leur disant « Attendez, lisez la notice, c'est bien marqué qu'il y a des interactions. »
Vous voulez dire qu'on est plus sévère presque avec les plantes qu'avec les médicaments?
C'est pas presque, vous pouvez l'enlever.
Pourquoi? On est plus sévère.
Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que, alors, d'un côté, vous avez une partie de la population qui pense que c'est naturel, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger. Ah oui, mais attendez, la belladone, la jusquiame, la ciguë...
Ce sont des poisons.
Ah ouais, ce sont des plantes mortelles à petite dose. Attends, dans la nature, je connais la conite, attendez, je connais des tas de trucs, ça vous tue une personne, mais en rien de temps, quoi.
Et ça, vous le dites bien dans votre ouvrage.
Ah ben,
attention, avertissement, il faut connaître.
Faire n'importe quoi. Ouais. Il faut surtout pas faire n'importe quoi. Voilà, ça c'est une tendance. Donc évidemment, cette tendance-là de gens qui font de l'automédication et qui ont des problèmes, parce qu'ils n'ont pas bien fait les choses, bon, eh ben ça va faire que de l'autre côté, il y en a d'autres qui vont dire « Mais attention, je vous l'avais bien dit, la nature est dangereuse, parce que beaucoup de gens, quand on en a parlé juste avant, et c'est tout à fait dans la suite de notre conversation, on a peur de la nature parce qu'on en est coupé. On en est coupé, on ne connaît plus, donc spontanément, y a beaucoup de gens qui ont peur de la nature. Et quand on peut... Soyons, on va dire les choses jusqu'au bout, hein. On nous écoute, mais bon, il faut bien le dire. Il y a aussi des intérêts économiques sacrément importants qui sont en jeu. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment envie qu'on fasse autrement que ce qu'on fait classiquement, je dirais.
On va s'arrêter là dans ce commentaire.
Il n'y a pas de mal, tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, c'est un secret de polichinelle.
Mais je pense aussi qu'il y a de la place pour tout le monde, aussi, selon les degrés de maladie.
Moi, c'est ce que j'ai toujours pensé,
bien sûr.
Absolument.
Kim, vous avez appris à connaître les plantes à force de côtoyer François Couplan, qui est un aficionado, donc on ne peut pas le côtoyer sans apprendre quelque chose sur les plantes, finalement.
Effectivement, c'est vrai. Oui, et puis doucement, je m'y fais chaque jour, en fait. C'est tout un monde.
Voilà. Vous prenez des petites notes, vous avez un herbier, vous collez l'herbette, nouvelle herbette qui vous a fait découvrir.
Non, justement pas, mais bon, ça c'est propre à ma démarche. Ça marche pas bien avec moi, ce genre-là.
Oui. Donc c'est quoi? C'est dans la mémoire, c'est à force de voir, ça rentre.
Disons que dans ma démarche, mais qui s'applique à toute autre chose, finalement, j'essaye un petit peu de déconstruire ça, mais ça ne concerne que moi. J'enseigne pas cette méthode, d'ailleurs il n'y en a pas. Mais je suis capable de me rappeler de plusieurs centaines de visages. Je ne me rappelle pas pour autant avoir eu besoin de noter, voilà, cette personne a tant de centimètres d'espace.
Vous pensez qu'avec les plantes,
etc.
Et les plantes, c'est la même
chose. Mais en fait,
chose.
Je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut se réapproprier qui serait du même ordre. Mais finalement, vu qu'on n'a pas été, on n'a pas été mis en contact avec ce monde-là, en tout cas moi, depuis ma tendre enfance, ben, il faut que je me réapproprie ça. Et je sais si je vais par tâtonnement, mais je pense, j'imagine volontiers qu'un enfant qui naît dans ce milieu-là, qui naît dans un milieu de collecteur, de cueilleur, et qui serait directement en contact avec ces plantes, je suis à peu près sûr que pour lui, distinguer une plante d'une autre, c'est exactement comme distinguer une personne d'une autre. Il ne doit pas y avoir de différence.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je veux dire, traditionnellement, même dans notre culture pas si lointaine, c'était souvent la grand-mère qui allait avec le petit-fils ou la petite-fille, et puis qui montrait des choses, tout simplement. Et puis, comme moi, j'ai appris avec ma mère, hein, j'ai pas fait des herbiers et tout ça tout de suite. Et il avait une connaissance, on peut pas dire spontanée, puisqu'elle est acquise, elle est apprise, mais on peut pas dire naturelle, puisqu'elle est culturelle, mais simple.
Vous dites
quoi,
par osmose.
Normal, par
oui,
osmose.
Vous utilisez ce mot dans...
On peut dire ça, par osmose. Mais je pense qu'à partir d'un certain moment, et moi c'est ma démarche, effectivement, il y a un petit côté scientifique en moi qui...
Même
fait
assez
que
fort, on vous voit, vous décodez des molécules, vous parlez de certaines substances et de leur action, donc vous avez ce background scientifique.
Il faut les deux, quoi. Il faut les deux. Les scientifiques qui n'ont pas la spontanéité, un scientifique qui n'est pas un poète, je veux dire, c'est pas un scientifique pour moi, quoi. Un scientifique qui n'est pas en contact avec ses émotions et qui n'arrive pas à parler avec son cœur aussi bien qu'avec sa tête, c'est qu'il n'a pas compris le film, quoi, je dirais. Voilà, donc il faut les deux, quoi. Et quelqu'un d'un autre côté, et c'est ça un petit peu souvent le problème, qui fait les choses de façon un peu approximative. Je ne dis pas que tu fais ça, Kim.
Bien évidemment.
Mais arriver, ouais, par exemple, à connaître bien précisément les noms latins des plantes, savoir les regrouper dans des familles, avoir une vision globale et très précise de tout ce qui pousse dans son environnement. Peut-être tout le monde n'en a pas besoin, hein. Mais enfin, en tout cas, moi, pour moi, c'est un moteur, quoi. C'est important.
Alors, est-ce que la Suisse romande est un endroit, une région intéressante pour les plantes médicinales? Est-ce que toute cette variété de reliefs amène une grande variété de plantes médicinales?
Ouais, il faut dire oui. Il faut dire oui.
Non, mais vous pouvez dites-moi ce qu'il en
mais
est.
Mais non, mais attendez,
parce qu'il
non,
y a
mais
le c'est plateau, une le lac, la montagne, à droite, à gauche.
Non, mais c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Je dis ça parce que je trouve qu'en Suisse, il n'y a pas assez de nature sauvage. J'arrête pas de le dire.
Et... Ah, tout a été domestiqué.
Les bords de route sont bien taillés, quoi.
Ouais. Ça change, hein.
Ah oui.
Ah, ça change.
Parce que
ça
me choque encore.
Mais tu vas voir. Ça change quand même. Mais cela dit, oui, absolument, bien sûr.
On peut trouver des choses intéressantes.
Ah ouais, mais attendez, il y a 3500 espèces de plantes en Suisse. C'est quand même, c'est un nombre important par rapport à la superficie du pays, justement du fait qu'il y a des différences d'altitude extrêmement importantes et des milieux très, très différents. Entre, par exemple, les forêts de chênes pubescents au pied du Valais, qui est, comment dire, sub-méditerranéen, si l'on veut, et puis les alpages, les vrais alpages dans les montagnes. Enfin, je veux dire, on est à la limite de deux mondes qui sont géographiquement très proche. En Valais, entre les Folataires et puis le sommet du Muvran un petit peu au-dessus, ben, je veux dire, en altitude. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand on monte de 100 mètres en altitude, c'est comme si on voyageait de 100 km vers le nord. Donc vous imaginez, depuis 400 mètres jusqu'à 4400 mètres, on parcourt 4000 km en Suisse. C'est fabuleux, non?
Et chaque fois, il y a d'autres plantes avec d'autres caractéristiques.
Ouais, exact, absolument. Qui sont groupées dans des étages de végétation, qui ont des noms collinéens, montagnards, subalpins, alpins, nivales, etc. C'est passionnant, quoi. Je veux dire, on arrive à décoder, à lire le paysage et à voir justement comment la nature fait les choses et comment l'homme interfère là-dedans. Parfois bien, parfois, à mon avis, moins bien.
Alors, on va dire l'aspérule odorante, on la trouve où?
On trouve dans les forêts de hêtres, quoi. Ce qu'on appelle le phagion.
Donc, dans la plaine.
En phytosociologie. Ouais, c'est plutôt le plateau.
Le plateau, d'accord. Ouais. Et la verveine, tout ça.
Qu'est verveine? Ah, la verveine officinale, oui, dire celle qui sent rien du tout. Là, c'est plutôt... Oui, ça peut être dans ces altitudes. Ça a une amplitude altitudinale assez importante.
Et qu'est-ce qu'on trouve dans les grandes altitudes, mais qui peut nous être utile?
qui peuvent nous être utiles. Ah, qui peuvent nous être utiles.
Des ça, plantes médicinales.
Ah là là, je vais quand même faire un petit aparté. Les plantes médicinales, ça nous est utile. Les plantes alimentaires, ça nous est utile. Mais n'importe quelle plante qui existe, quelle que soit la possibilité qu'on en ait découverte déjà, elle nous est utile. Il n'y a pas une plante qui ne nous est pas utile, il n'y a pas une chose qui ne nous soit pas utile d'ailleurs si on va par là. Mais en particulier avec les plantes, je vais vous dire, vous allez vous balader tout au sommet de l'étage nival où il n'y a plus que quelques petits saxifrages à feuilles opposées qui poussent là-haut, là, coincées dans les rochers. Elle va pas, vous n'allez même pas l'accueillir ni pour la manger ni pour vous en nourrir. Mais elle est utile, le simple fait qu'elle soit là, elle témoigne de toute la puissance de la vie dans un milieu qui paraîtrait totalement vide. Et c'est ça, quoi, c'est la vie.
Writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me.
Chet Baker, but not for me, pas pour moi. En tout cas, François Couplon, vous mettez tout un pathos pour nous parler de la cueillette, non pas juste parce qu'on peut trouver les choses gratuitement dans la nature, il faut faire attention parce qu'on peut trouver aussi des choses dangereuses dans la nature,
ah oui,
ça,
là,
on
ça
le dirait jamais
assez. Là, oui.
Voilà. Mais vous parlez des vertus thérapeutiques dans le bon sens du mot, c'est-à-dire d'être dehors, de marcher et de découvrir ces plantes dans leur milieu.
Oui. Oui, je pense effectivement, et c'est, je dirais c'est l'esprit de mon livre, c'est que aller récolter soi-même les plantes qu'on va utiliser, en l'occurrence pour se soigner, mais ça a une dimension thérapeutique en soi, quoi. Je veux dire, ça fait tellement bien de sortir et puis de se trouver dans un bois où poussent des plantes qu'on distingue pas forcément très très bien d'abord. Alors on va s'en approcher, puis on va toucher, et puis ça va sentir un petit peu le citron, avec un petit peu quelque chose d'un petit peu désagréable peut-être. Ah, un petit peu de menthe aussi quand on, vous voyez, quand on rentre dedans. Et puis voilà. Et puis ah, et puis c'est du lierre terrestre. Lierre terrestre, c'est bon pour la toux, quoi. Bon, d'accord, c'est super, c'est génial. Mais le simple fait de s'être intéressé, d'avoir pris contact avec cette plante dans son milieu naturel, sous les arbres qui poussent là, il se sera passé quelque chose et on se sentira mieux. Et finalement, peut-être bien qu'on va pas tomber malade et qu'on n'aura même pas besoin de l'utiliser, le lierre terrestre. Non, mais attendez, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire la prévention. Personnellement, moi, je suis rarement malade, je dois dire. Et je suis très content d'être rarement malade. Et moi, je prétends que si je suis rarement malade, j'ai de la chance, peut-être, d'accord, sûrement, d'accord. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a vraiment pas que ça.
Bon, mais il faut connaître aussi. Vous reconnaissez très vite ces plantes quand vous êtes dans un sous-bois, mais comment on fait? On fait des stages avant?
Par cœur, je vous le recommande.
Pour vraiment trouver quelque chose.
Achète un livre, il y a un livre très bien.
Non, mais vous rendez compte, on doit prendre des cours pour...
Attendez, je vais vous poser une question.
Pour décoder.
Je vais vous poser une question. Mmh. Il y a un certain temps, vous avez appris à conduire.
Moi, pas personnellement,
non, pas
mais
vous,
d'autres choses.
J'ai appris à lire et à écrire.
Oui.
Ça vous a pris du temps d'apprendre à lire et à écrire.
Oui.
Bon, c'était quand même assez difficile. Bon, mais vous lisez et vous écrivez très bien.
Oui.
Bon, écoutez, elle est où la différence? Elle est où la différence? Ce qu'il y a, c'est qu'on apprend à lire et à écrire à l'école. Malheureusement, les plantes, on les apprend pas à l'école. Pas encore, parce que bientôt, ça va venir. Enfin, bientôt, je sais pas quand ce sera. Mais un jour, les départements de l'instruction publique vont comprendre qu'il est très important de fabriquer, non plus de fabriquer justement des petits éléments dans la société, mais des personnes qui soient bien dans la vie et que tout le monde en profitera au final. Tout le monde, que c'est la société qui en a besoin de ça. Et ben, pour faire ça, une bonne chose, c'est justement d'emmener les enfants et puis de leur apprendre, de leur faire découvrir le monde naturel dont ils éprouvent la nécessité. Prenez n'importe quel petit enfant, il éprouve la nécessité absolue d'aller dans la nature, même si, comme on le disait tout à l'heure au début de l'émission, la nature, elle commence tout près, mais d'avoir un contact avec les plantes, les animaux et tout ça, quoi. Donc, faisons-le, permettons-leur de vivre pleinement cette relation qui va les équilibrer, et ça sera pour le plus grand bien de tout le monde.
Bon, si on a un cœur d'enfant, on veut commencer un peu plus tard à découvrir la nature.
Donc, à ce moment-là, il faut bosser.
Soyons un peu concrets. Donc, cueillir, ok.
Ouais.
Où? Quand? Dans quel moment de l'année? Quelle plante? Où, par exemple? Pas en bord d'autoroute.
Ah oui, d'accord.
Pas en bord de...
Mais d'accord. Pas dans les endroits trop pollués. Non,
voilà,
effectivement.
Ça, c'est clair.
Là,
alors, où?
Ça, c'est certain.
Dans les bois?
Ah bah,
dans les champs.
Par exemple, oui. Bah, dans les champs, si les agriculteurs n'ont pas mis de produits toxiques, vaut mieux se renseigner avant. Bah, enfin, on le voit, je veux dire, si on le voit... Ou pas dans les jardins où les gens ont mis du Roundup, quoi. Non, mais enfin, il y a des choses qui tombent sous le sens, il me semble.
Il y a encore des endroits en Suisse romande qui nous entourent où on peut trouver des plantes.
Si c'était pas le cas, je serais plus en Suisse romande.
D'accord.
Hein, ni
donc,
en
voilà.
Suisse allemande,
on va
Suisse
les cueillir à ces endroits-là. À quel moment,
plein,
le matin, à midi, le soir?
Ça dépend ce qu'on veut. Il y a des plantes pour lesquelles on va les cueillir le matin ou le soir, c'est pas une très grosse importance. Ça dépend aussi si on veut les cueillir pour les sécher. Par exemple, si vous voulez cueillir des plantes pour les sécher, vous n'avez pas les ramasser le matin quand elles sont couvertes de rosée. Par contre, s'ils sont des plantes aromatiques, donc pleines d'essence, vous n'allez pas les cueillir en plein cagnard quand elles ont évaporé la moitié de ce qu'elles contiennent, parce que justement, ça leur sert à ça, quoi.
Et il faut un minimum de matériel. Hein, donc, il faut mettre chaque plante, si je vous ai bien compris, dans un autre petit sac. On ne peut pas mettre tout ensemble.
Oh bah non.
Non, mais vous savez, pour vous, c'est du bon sens.
Ah ouais, mais attendez.
Mais pour nous...
Mais attendez, vous allez tout mélanger, puis vous allez faire quoi? Vous allez faire une tisane de mixture? Moi, je veux bien, pourquoi pas. Mais attendez, quand même, et la première chose, c'est de savoir ce qu'on cueille.
D'accord.
La première chose, c'est de savoir qu'on cueille. Ce qu'on cueille, il faut l'avoir vraiment très clairement identifié. Savoir exactement ce qu'on va faire. Et puis, quand on revient chez soi, encore vérifier avec des livres si on ne s'est pas trompé de plante. Non, c'est exigeant, la cueillette. Hein. C'est exigeant. Ça ne se fait pas n'importe comment.
Et si on rêve comme ça, voilà, du tilleul, la camomille, etc. On a pu. Après,
ouais.
Donc, on va sécher.
Oui,
et après, on va garder ça quelque part dans notre armoire.
Voilà.
Dans
ça
quoi?
Sentira bon.
Ça sentira bon. Dans quoi?
Oh, ben, ça peut être dans un sac en papier si votre armoire est vraiment bien au sec, quoi. Sinon, dans un bocal en verre, mais il faut faire attention que la plante soit vraiment extrêmement sèche pour qu'elle ne moisisse pas.
Et au cœur de l'hiver, je vais pouvoir me faire une petite tisane.
Bien sûr.
Sans prendre trop de risques chimiques.
Qu'est-ce que vous voulez dire sans prendre trop de risques chimiques?
C'est-à-dire que ces plantes sont protégées suffisamment, où je les ai prises dans un lieu où il n'y a pas trop ni de pesticides, ni de pollution, ni tout ça.
Mais
quand
je vous fais entière confiance pour ça.
Ah d'accord, que je vais trouver les bonnes.
Ah bah, oui, vous serez...
Non mais vous voyez l'inquiétude quand vous dites on a peur de la nature, c'est parce qu'il se passe tellement de choses autour avec tout ce mode de vie qu'on se dit est-ce qu'on va trouver encore quelque part quelque chose de...
Attendez, je peux poser une question. Je crois que les produits bio, ça bouge beaucoup en Suisse hein, quand même. Mais il y a quand même encore beaucoup de gens qui ne mangent pas que des produits bio. Qu'est-ce qu'ils mangent ?
Ben, des légumes normaux.
Oui, voilà, normaux. Ben, qu'est-ce qu'il y a dessus ou dedans ?
Oui, d'accord.
Enfin, je sais pas, moi, je pose la question comme ça, hein, juste incidemment. Bah, bon, voilà, donc les plantes...
Pas plus ni moins que ce qui se trouve sur les champs, quoi.
L'idée, c'est quand même, vous allez cueillir une plante dans un bois sur un pré, dans une montagne, où manifestement, il n'y aura pas eu d'herbicides et de choses comme ça. Bah, votre plante, elle sera moins polluée que les légumes que mangent la plupart des gens. Voilà, c'est tout, quoi. Et certaines plantes médicinales qu'on trouve dans le commerce, bah, écoutez, elles ont été cultivées, on ne sait pas comment non plus. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Quoi, quand même. C'est pas par la peur qu'on avance, quoi. C'est en dépassant ces peurs. Donc, si vous avez cette peur, eh ben, allez-y, mais allez-y en connaissance de cause, en vous faisant accompagner par quelqu'un qui connaît, par exemple. C'est bien, quoi. C'est bien, c'est intéressant. Puis c'est du partage, c'est important. Quand quelqu'un connaît quelque chose, il a vraiment envie de vous le faire connaître aussi.
Kim, vous faites une partie de l'année, vous vivez au Canada, je crois qu'on l'a déjà dit, et vous faites une expérience assez particulière de justement vivre presque en autonomie dans la nature, loin de toute route, de toute voiture, de tout gaz d'échappement.
Je suis assez éloigné, oui, effectivement. Oui, donc c'est la continuité de la démarche dont on parlait avant, finalement, c'est qu'un jour, mon petit bois est devenu un petit peu trop petit, peut-être, ou par le biais de l'archéologie, je me suis trop penché sur ce à quoi pouvait ressembler notre pays il y a justement 10, 12 000 ans, au Mésolithique ou à la fin de la dernière glaciation.
Ça vous ennuie, ça.
Et puis, peut-être quelque part, c'est que voilà, je me suis dit, j'aimerais quand même bien voir à quoi ça peut ressembler.
Donc, et donc,
il m'a fallu aller loin.
Oui,
effectivement, loin au nord-ouest du Canada. C'est pas le seul endroit sur Terre, hein, mais c'est celui qui correspondait, je pense, à ce que je cherchais et puis certaines facilités pour moi. Donc voilà, très concrètement, j'ai pris l'avion, j'ai débarqué dans un tout petit territoire qui s'appelle le Yukon, petit territoire grand comme l'Espagne en superficie, avec 35 000 habitants.
Et qui est sauvage, donc là, que l'homme n'a pas totalement domestiqué ou pas du tout ou très peu.
Même 35 000 habitants, ça peut faire des dégâts, mais c'est limité. Hein. Même si à chacun on peut donner une tronçonneuse, on les lance, ils vont mettre du temps avant de déboiser une superficie grande comme l'Espagne. Donc on a encore le temps, même si effectivement, comme partout, des progrès techniques, des routes, des agrandissements... Voilà, d'autres villages, partout, on grignote doucement, hein, c'est clair.
Donc vous vous êtes fait une sorte de cabane, votre cabane au Canada, un peu isolée, dans la nature, et vous avancez toujours plus
vers le
cœur de la forêt.
On peut dire ça, en fait, je ne me suis pas fait une cabane pendant beaucoup d'années, en fait, je passais tous les étés en exploration, et donc là, en fait, voilà, quelque chose de très concret par rapport au stage qu'on donne, puisque... je devais résoudre un problème purement technique de temps, c'est-à-dire que voilà, il fallait que je sois autonome pour 2 mois, à marcher dans des endroits et des conditions quand même assez précaires. Alors voilà, qu'est-ce qu'on met dans un sac pour 2 mois ? Donc voilà, déjà là, on
alors
on
qu'est-ce qu'on met dans qu'est-ce qu'on met dans un sac ?
Qu'est-ce qu'on met dans un sac ?
Pour 2 mois.
Pour 2 mois, on a parlé de se couvrir, d'être sûr de ne pas avoir froid. Donc
au minimum,
Alors vraiment le strict minimum. Et puis finalement, désapprendre, c'est ça. Mon immersion, c'est essayer de mettre de moins en moins dans le sac finalement, et de pouvoir passer de plus en plus de temps à l'aise dans la nature. Donc les endroits dans lesquels je vis actuellement. J'essaye de me défaire progressivement des éléments modernes qui ont fait partie de mon quotidien, qui en font encore partie. C'est un processus qui se fait doucement et très naturellement finalement. Donc voilà, je me débarrasse d'éléments comme une hache, un sac de couchage ou
Mais comment vous mangez tous les jours ? Excusez-moi.
Alors
je suis
non,
très
mais
terre
oui,
à
bah,
terre,
bah, oui, mais c'est très bien en fait. Alors comment je mange tous les jours ? Donc pour les 4 mois, on va dire d'été, de période chlorophyllienne, là où il y a des plantes qui poussent, Je me nourris de beaucoup de plantes que je trouve sur mon chemin, même qu'en milieu boréal, on a foison de plantes, hein, pendant cette période-là, même si elle est courte. On a tout ce qu'il faut. Là-bas, je peux rajouter des éléments comme du poisson, la chasse de petites de gélinotes qui sont des gallinacées, un lièvre si j'arrive à l'attraper.
Donc voilà, à main nue, donc.
Non, avec des collets. avec des collets, là. Main nue, les poissons. Les poissons, les attrape à la main nue. Ouais, ça marche, ça marche. Et puis, le reste du temps, en hiver, bon, on fait beaucoup je conserve beaucoup ce que je cueille. Ce qui est étonnant, et ça a été une découverte pour moi, c'est que dans ces pays-là, tout vient d'un coup. L'abondance existe, elle est constante. Mais elle a des périodes bien précises. On a 3 semaines dans lesquelles on a une foison de fruits, mais invraisemblable, entre les myrtilles, on a énormément de choses, quoi, les raisins d'ours, il y a plein de fruits, énormément, des petits
mais ça,
fruits évidemment.
Sur une période limitée, donc s'organiser.
Voilà, alors c'est bien de s'organiser, stocker, les conserver, on parlait de la conserve, donc effectivement, on a la chance d'avoir un hiver très froid, voilà. Donc on peut garder, congeler beaucoup de choses, mais pas tout, on peut sécher, on peut, de la même façon avec la viande, le poisson, les saumons qui remontent les rivières pendant l'été, on peut en stocker, il faut le fumer, le sécher, enfin voilà.
Et vous vivez comme ça, on a l'impression que vous nous racontez un film.
Non, c'est vrai.
C'est vrai, parce que vous aussi, vous avez fait cette expérience d'immersion dans la nature il y a quelques 15, 20
ouais,
ans.
Oui, enfin à l'aise, ouais.
30.
À l'aise, oui, il y a bien longtemps.
Mais vous
ça.
Avez ce point commun de cette expérience.
Ouais, sauf que moi, je faisais ça beaucoup plus légèrement et pas en passant des hivers rigoureux, parce que moi, l'hiver, je descendais au Mexique, en Amérique centrale. J'étais nomade, moi.
Je le suis, mais à une échelle plus restreinte, quoi. J'arrive pas à échapper à l'hiver.
Ouais,
mais
donc, voilà. Vous passez l'hiver là-bas?
Ouais, en fait, je passe presque toute l'année. On va dire, je reviens en Europe.
Pour les stages d'été.
C'est exceptionnel qu'il soit là.
Je pars dans quelques jours, d'ailleurs. Je vais passer 10 mois, là, d'un coup, sans sortir. Donc, j'ai 10 mois immergé en pleine nature.
Sans sortir de dehors, quoi.
Alors, vous voyez, je me fais rattraper, quoi. Sans sortir de ma forêt. Voilà, donc là, on voit bien, hein, à force, j'ai pris des tics, quoi. C'est-à-dire que je me sens chez moi, là-bas.
Excusez-moi, c'est marrant d'ailleurs, parce que les Indiens en Amazonie, quand ils parlent de la forêt, ils disent dentro. Dentro, à l'intérieur.
À l'intérieur, ouais.
Pour eux, la forêt, c'est à l'intérieur.
C'est comme une maison.
J'ai cette impression aussi, parce que pour moi, je sors, quoi. C'est vrai, quand je vais en ville, je sors de la forêt.
On rentre chez soi. C'est comme si on rentrait chez soi. C'est vachement chouette.
Mais d'ailleurs, c'est un des buts, je crois. Hein. C'est ce que j'ai voulu vivre. C'est ce que je veux vivre. C'est tout en douceur et tout en finesse, tout d'un coup, se retrouver finalement à chez soi dans la nature.
Mais Kim, si vous êtes malade, si vous avez la grippe, simplement.
Oui, simplement. Je vais la soigner.
Bah, il meurt.
La grippe.
Non, mais pratiquement, qu'est-ce que vous faites?
Non, la grippe, on n'a pas la grippe. On n'attrape pas la grippe.
Non, la grippe,
dans ces conditions,
donc, vous n'avez jamais été malade pendant l'hiver, là-bas?
Non, mais
ça peut
arriver. Mais encore une fois, toutes ces peurs-là, je ne sais pas comment. C'est peut-être pas forcément. Ça ne va pas sonner très rationnel, mais moi, je crois que quand on est dans le moment présent, François en parlait. Moi, je crois vraiment au pouvoir de l'instant présent et au fait que lorsqu'on est vraiment dans ce qu'on fait, on s'évite déjà beaucoup de soucis, beaucoup d'accidents. Quand on est dispersé, qu'on pense au futur, au passé, et qu'on finalement n'est qu'à moitié là, ben voilà, les choses peuvent arriver. Et finalement, c'est un état d'esprit, c'est aussi accepter qu'il peut arriver quelque chose. Et moi, je suis obligé d'accepter cette réalité-là. Quand bien même j'ai un téléphone satellite, et que je pourrais peut-être appeler des secours, les secours, parfois, mettraient plus d'une semaine à venir, peut-être qu'ils peuvent pas me localiser. Dans mon cas, il y a bien des situations où juste une jambe cassée pourrait me coûter la vie.
Voilà.
Très clairement. Bah, je l'accepte, c'est comme ça. C'est une réalité. Nous, on veut peut-être s'en couper dans nos sociétés aujourd'hui, on a tendance à croire qu'on peut